les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à tous. Nous sommes un groupe de 6 jeunes volontaires en service civique allant de 20 à 24 ans. Aujourd'hui, nous avons réalisé plusieurs projets avec des thématiques toutes différentes les unes des autres. Il y a plusieurs thèmes. Donc les thèmes représentés sont le harcèlement, la dépendance aux écrans, la Coupe du Monde féminine et l'intelligence artificielle. Du coup, je vais laisser la place à mes camarades.
Alors, on discutait, Laura et moi, et en faisant connaissance toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on avait donc, comme beaucoup de gens, fait face à des situations de harcèlement. Laura, elle, au sein de son service civique, qu'elle effectue dans une école primaire, et moi, l'ayant subi par le passé.
Étant en service civique depuis 7 mois, dans une école primaire, j'ai pu apercevoir un cas d'harcèlement entre un groupe d'enfants. Et en rencontrant Marine, j'ai voulu en savoir plus sur l'harcèlement. Donc je lui ai donc demandé de se livrer en public. C'est pour cela qu'on a demandé l'aide de Damien et de partager tout ça. Alors Marine, à quel âge as-tu été victime d'harcèlement ?
Alors ça a commencé, j'avais entre 7 et 8 ans.
À cet âge-là, comment ça s'est manifesté ?
Alors c'est un peu bizarre à dire maintenant. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est moi, mon surnom, vraiment, c'était... mon identité, c'était dents de lapin. Voilà, on m'appelait comme ça, on venait me voir, on faisait ouais, les dents de lapin et tout, et on me provoquait jusqu'à ce que je réagisse, quoi.
Et donc, tu parles plutôt d'harcèlement moral.
Ouais, je dirais ça, parce que ça a été la grande partie du harcèlement que j'ai subi.
Et pour quelles raisons tu te faisais harceler ?
Alors, je suis née avec des malformations au niveau des mâchoires. J'étais très fortement rétrograde, donc c'est la mâchoire du bas qui était très 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 en arrière. Et il a fallu que je subisse plusieurs opérations pour obtenir un visage normal en fait maintenant.
Puis au collège, comment ça s'est passé ?
Alors, faut savoir qu'entre la primaire et le collège, j'ai déménagé. J'étais d'ailleurs très contente de le faire parce que je me suis dit que j'allais rencontrer des nouvelles personnes et que donc ce faciès de dents de lapin, on allait un peu l'oublier. Sauf que je me suis complètement trompée puisque c'est l'inverse qui s'est produite. En fait, ça a empiré de façon catastrophique. J'étais une victime régulière. Quand je dis régulière, j'entends quasiment tous les jours de 15 à 20 personnes, en comptant en plus de ça quelques autres personnes qui ajoutaient, entre guillemets, leur grain de sel à ce que je subissais, en fait, de temps en temps.
Et pendant cette période, as-tu réussi à te confier ?
Alors non, je n'ai jamais parlé de ce que j'ai subi pendant donc, la période où je l'ai subi. Seuls mes quelques amis de l'époque qui y assistaient donc étaient au courant. C'est tout.
Pourquoi ils n'ont pas réagi ?
Alors je pense qu'à ce moment-là, elles avaient peur d'attirer l'attention des harceleurs et de, malgré elles, se retrouver par la suite à ma place et de subir ce que je subissais déjà.
Et combien de temps ça a duré ?
Alors en tout, ça a duré presque 10 ans puisque ça a commencé, je venais de prendre, ouais, je dirais entre 7 et 8 ans, et ça s'est fini, j'étais en seconde et j'avais 16 ans et demi.
Et comment t'as fait pour mettre fin à tout ça ?
Donc j'ai subi ces fameuses opérations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Une première de la mâchoire supérieure qui avait aussi des défauts en février 2014, j'étais là en troisième, et une autre, donc la dernière, en fin de seconde, en juin 2015.
Est-ce que l'harcèlement tu as eu des conséquences durant cet harcèlement à l'heure actuelle ?
Alors oui, encore aujourd'hui, même si c'est fini depuis longtemps, je vis toujours avec les conséquences du harcèlement, puisque depuis 2016, donc après les opérations, j'ai un suivi psychologique qui a évolué vers un suivi psychiatrique, car j'ai développé une forme de phobie sociale, en fait, de l'anxiété et un trouble de la personnalité borderline, puisque, en fait, pendant cette période de harcèlement, j'ai développé une dépression qui n'a absolument jamais été soignée.
Et tu le vis comment aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que ça fait de moi quelqu'un de plus fort. Ouais, je le prends vraiment comme une force, puisque ça me donne la possibilité de partager mon expérience avec des gens qui subissent la même chose ou qui ont subi la même chose. Et donc, ça peut permettre aux gens de se sentir moins seuls.
Donc maintenant, nous allons vous donner quelques chiffres sur le harcèlement scolaire en France. Alors, selon France Info, il y aurait 700 000 élèves harcelés, dont un élève sur 10. Et en pourcentage, on dirait 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée, et dont un quart a déjà pensé à se suicider. Et toi, Marine, as-tu déjà pensé à te suicider ?
Alors, j'ai décidé qu'en répondant à ces questions, je ne mettrais aucun filtre parce qu'il faut être le plus clair possible. Oui, je ne vais pas mentir, j'y ai déjà pensé. Parce qu'au bout d'un moment, quand on ne voit plus d'issue, c'est la seule chose qui nous vient en tête, en fait. Mais ce n'est même pas volontaire, c'est même pas j'ai envie d'en finir et tout. Non, c'est en fait, il n'y a plus d'issue, ça ne se termine plus. Il n'y a aucune solution à ça. Et en fait, ça devient un peu, une idéalisation du suicide, entre guillemets, comme la seule issue de secours. Alors, j'y ai pensé. Heureusement pour moi, je n'ai jamais tenté. Mais oui, j'y ai déjà pensé.
Tout à l'heure, on a parlé de harcèlement moral. Comment pourrais-tu me l'expliquer ?
Le harcèlement moral, en soi, c'est défini par des mensonges, des insultes. Et oui, c'est de l'intimidation, en fait, tout simplement. Après, il faut aussi pouvoir l'opposer au harcèlement physique, qui, lui, est défini par, tout simplement, le harcèlement physique, plutôt le fait de se retrouver mêlé à des bagarres, mais sans le vouloir. C'est pas des élèves qui sont bagarreurs de base. Ils se retrouvent mêlés dans des conflits, à recevoir des coups et des violences physiques qu'ils ont pas demandé à qui que ce soit, en fait.
D'accord. Comment peut-on reconnaître un élève harcelé ?
Un élève harcelé, c'est un élève qui est très renfermé et qui ne parle pas aux autres de ce qu'il vit parce que le harcèlement, c'est vécu comme une honte. On se sent coupable, en fait, de ce qu'on vit, même si on ne l'est absolument pas. Ensuite, parce que les harceleurs sont cachés, ils agissent donc discrètement ou en situation où leur victime est en faiblesse et personne ne peut leur venir en aide. Après, aujourd'hui, il faut quand même dire que les parents sont malheureusement dans le déni parce que pour eux, du moins la plupart d'entre eux, ces situations qui sont réellement du harcèlement sont considérées comme des enfantillages sans importance alors qu'elles ont bel et bien des conséquences parfois graves.
Quelle est l'attitude des autres élèves ?
Dans les autres élèves, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a le spectateur passif, comme l'étaient mes amis, comme je l'ai parlé avant, comme je les ai décrites avant, qui ne participent pas aux violences, mais ne s'y opposent pas non plus, parce qu'elles ont peur d'être victimes à leur tour et de subir des agressions, en fait. Autrement, il y a le spectateur donc actif qui, lui, à force de voir du harcèlement, finit par prendre part aux attaques, entre guillemets, en y ajoutant des rumeurs qui deviennent ensuite... ces élèves deviennent ensuite des agresseurs eux-mêmes pour trouver une place dans un groupe, en fait.
Et comment un élève devient-il une victime d'harcèlement ?
Un élève victime de harcèlement, c'est un élève qui est différent. Parce que malheureusement, la différence fait de l'élève une proie. C'est très facile d'attaquer quelqu'un sur le fait qu'il n'est pas comme tout le monde. Mais aussi des élèves qui souffrent d'une certaine vulnérabilité psychologique, sans spécialement avoir de différence quelconque. Cette vulnérabilité fait d'eux des victimes très faciles à atteindre. Je voudrais aussi juste rajouter, pendant que j'y suis, que cette histoire vraie, qui n'est autre que la mienne, s'inspire donc des frères réels qui sont les miens, mais à garder en tête que tout se finit bien malgré tout. Je veux aussi absolument parler du fait que le harcèlement, c'est quelque chose qu'on doit partager. Il ne faut pas garder pour soi parce que c'est là que les conséquences deviennent catastrophiques. On peut en parler que ça soit un chef d'établissement, à un proche, quelqu'un de confiance. Il faut savoir que le harcèlement est aussi puni par la loi et que vous n'êtes pas seul et ça, il ne faut jamais l'oublier.
D'accord, merci Marine d'avoir répondu à toutes mes questions.
Mais de rien.
Bonjour, moi c'est Elias, je suis en service civique à la préfecture d'Évreux. Alors j'ai choisi de faire un micro-trottoir sur l'addiction des écrans, télé, téléphone, jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. J'ai donc été en centre-ville pour prendre le témoignage de passants afin d'avoir leur point de vue sur ce sujet. Et on partage et on écoute.
Selon vous, quels sont les plus gros sujets d'addiction ?
La drogue. Et l'alcool.
Ah bah il y en a plusieurs. En fait, c'est une dépendance. De toute façon, l'addiction, on est tous dépendants de quelque chose.
Ouais.
Et pour moi, la pire, c'est l'alcool, en fait.
La drogue.
Tous.
C'est-à-dire.
Pour vous, ceux qui
tout ce qui peut être un doudou de substitution, d'accord, c'est quelque chose qui est censé faire du bien, mais en fait, on fait du mal. Donc, ça part de la cigarette à l'alcool. Fumer le shit, consommer des drogues plus dures, aimer quelqu'un, et puis ouais. Voilà. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà.
D'addiction,
la clope,
l'alcool,
et la nourriture.
D'accord.
Sujet d'addiction.
Ça dépend à quel principe actif tu fais référence.
C'est-à-dire
je sais pas, tu parles d'addiction.
Ouais,
moi je dirais la vitesse.
La vitesse ?
Ouais. La vitesse.
D'accord.
Ouais. Je dirais le numérique.
Et vous, monsieur ?
Je sais pas, je dirais la politique.
L'alcool.
Comme ça, je dirais le tabac, l'alcool, tout ce qui est drogue de manière générale.
Ça, c'est une question que je trouve pas de réponse, moi.
Ah ouais ?
Ouais.
D'accord.
L'addiction, ça veut dire quoi, l'addiction ?
L'addiction, c'est ressentir le manque de...
Le manque de... Ça veut dire vous parlez de la cigarette.
Cigarette, alcool, tout.
Moi, le seul problème... ça veut dire que je ne peux pas parler de ça pendant... ça veut dire que je viens finir... Quand je ne fume pas, j'ai la tête qui voulait exploser.
Météo, le boulot...
L'addiction.
Ouais, bah, c'est ce qui parle tout le monde. Hein. Pas toujours sur ça.
Et si je vous dis les écrans, vous en pensez quoi ?
Bah, c'est aussi de l'addiction.
Ah ouais ?
Oui.
Ouais. On devient addict très vite.
Ah bah oui, c'est aussi une addiction. Totalement.
Les écrans.
Ouais.
Les écrans de quoi ?
Téléphone, télévision, jeux vidéo, peu importe.
Bah, très, très utile si on n'en abuse pas.
D'accord. Mais est-ce que pour vous, c'est un sujet d'addiction ?
Ah bon, vous voulez... C'est toujours en rapport avec l'addiction. Pas forcément.
C'est aussi une addiction.
Alors je suis contre. Mon fils a 8 ans et tous ses copains dans leur chambre ont une télé, Nintendo Switch, une Play, machin, une DS et un téléphone. Le mien, c'est rien. Si on lit une histoire, si tu veux faire quelque chose, tu lis une histoire et basta. Mais pas de télé dans la chambre d'un enfant.
D'accord.
Parce qu'il ne peut pas se construire...
Non, les gens, ils abusent des écrans.
Ah. Non, c'est bien.
Non, ils abusent. Moi, 10 heures par jour sur le téléphone, t'es quel bail.
Les enfants, oui, mais nous, ça va.
Mais non, pas nous aussi, ouais.
Non.
Non, je dirais un... Comment dire ? Ça serait un contrôle de soi-même vis-à-vis du numérique. Parce que dans tous les cas, il y a un contrôle des populations par rapport au numérique. Tu vois, au niveau politique, au niveau... à beaucoup de niveaux en fait, hein. Et je dirais au niveau politique, tu l'as vu avec les affaires qu'il y a eu, l'élection de Trump, je sais pas si à la Russie, machin, etc. derrière, et donc tu te dis bah, peut-être qu'il y a... mais est-ce qu'il y a un lien avec l'addiction au numérique, je sais pas.
Je suis totalement d'accord, il y a des études qui ont été faites, notamment pour les enfants, On est dans une société qui fait que les enfants savent utiliser un iPad avant de savoir marcher. Mmh. Et le truc, c'est que ça grille leurs neurones et c'est pas bon du tout. Normalement, un enfant est pas censé être devant un écran avant l'âge de 6 ans parce que son cerveau est pas censé être apte avant.
Ça dépend, parce qu'on peut penser aux réseaux sociaux où effectivement il y a un gros sujet d'addiction, où il y a des statistiques, des études qui montrent que les gens passent beaucoup, beaucoup de temps sur leur téléphone, sur leur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça par jour.
D'accord.
Donc effectivement, oui, ça peut être un gros frein dans une vie sociale normale, en fait, on va dire.
Les écrans...
Comme téléphone, télévision, ouais. Tablette...
Le téléphone, c'est un truc qu'on utilise tous les jours. La télé, il faut qu'on regarde les médias.
Et est-ce que vous pensez que il y a une addiction envers les écrans?
Addiction, ça veut dire quelque chose qui m'attire, comme ça.
Voilà, qui vous attire, non. Vous pouvez pas vous en empêcher.
Non, non,
pas d'accord.
Les écrans?
Ouais.
On en fout, hein.
Voilà.
Voilà, c'est pas vrai.
Sans téléphone et sans écran et tout ça, sans internet, on peut pas travailler, on peut rien faire.
Est-ce que vous avez des idées ou des alternatives envisageables pour diminuer cette dépendance?
Sortir, faire d'autres activités.
D'accord. Et pour vous, est-ce que vous êtes addict à quelque chose selon les écrans? PlayStation?
Ouais, je pense. Oui, au PC.
PC, ouais, pareil, ouais. PC aussi. Avez-vous une idée ou une alternative envisageable pour diminuer cette dépendance?
Bah sortir.
Sortir.
Bah oui. Si on sort pas, on est devant son écran.
Je crois que c'est impossible. Hein.
Il n'y a pas? Pour vous, il n'y en a pas.
C'est pas possible. Bon, ça dépend pour qui. Si c'est pour des adultes ou pour des enfants. Pour des enfants, on arrive toujours, on peut toujours canaliser un peu le temps, disons, passé à ça. Non. Mais pour des adultes, c'est difficile de leur dire, essayer de passer moins de temps dessus. Enfin, je suis une des premières, j'ai toujours mon portable à la main, toujours en train de regarder dessus. Ça me sert, je cherche une rue, je vais y aller directement avec mon GPS.
Donc pour vous, c'est plutôt utilitaire?
C'est utilitaire. Bah, disons qu'on trouve les écrans partout, dans les banques aussi, quand on veut aller chercher de l'argent, on est obligé de se servir aussi d'un écran. Enfin, c'est partout, on est, comme il dit, on est canalisé commercialement à utiliser tout le temps un écran.
Supprimer les réseaux sociaux.
Les parents.
J'oublie.
Les parents. C'est les parents.
Ouais.
Les parents. Parce que les enfants entre eux te disent oh tes chaussures elles sont noires. Oh toi t'as pas eu le dernier truc et tout. Donc il faut arriver à rivaliser les parents avec leurs gamins. Mmh. Et moi que le mien par exemple, et faire du style des réunions en disant mais non, c'est pas bon.
Vous êtes déjà allé à la pêche?
Est-ce que vous avez une idée ou une alternative envisageable pour diminuer cette dépendance?
Alors là, sortir plus d'argent, non, du coup vie. Plus d'argent, plus de sorties. Voilà.
L'éducation. Dès tout jeune âge.
Oh je pense pas.
Ouais.
Si.
Non, l'éducation dès tout jeune âge. Il y a une règle des 3, 6 et 9 ans. C'est qu'en fait, tous les 3 ans, tu vas, par exemple pour ton enfant, tu vas lui laisser faire plus de choses par rapport à un écran, mais tout en l'éduquant, en fait.
D'accord.
L'éducation au numérique, je crois que c'est aujourd'hui, c'est vraiment important. C'est un D'accord. truc qui est très très important aujourd'hui.
D'accord.
Mais justement, pour ne pas rentrer dans une dépendance et avoir un contrôle par rapport à ça.
Bah, il faudrait qu'on prenne en compte ce que je viens de dire et ça passe par l'éducation en fait. Il faudrait qu'on contrôle un peu. Il y a eu des choses qui ont été faites, vous savez, avec les cloches à téléphone et tout ça, genre où on a le droit de les utiliser une heure dans la journée, après il faut les remettre sous la cloche et elle est fermée et elle s'ouvre qu'à une heure précise pour essayer de contrôler le temps de visionnage et tout ça, et c'est
donc vous, pour vous, c'est en réglementant
Mais c'est comme un médicament en fait, vous savez, il y a une posologie, faut pas en prendre plus de 3 dans la journée, bah les écrans ça devrait être pareil.
D'accord.
Je pense que ça découle du progrès surtout, donc quoi qu'on fasse ce sera là.
D'accord.
L'idée générale, ce sera juste qu'on prenne conscience que la vie elle se joue dehors plus qu'à l'intérieur des écrans, quoi.
Ouais. Pour moi, c'est pas un problème. Hein.
Si ça diminue, à cette génération, on va jamais vu évoluer.
Attendez.
C'est une bonne radio.
Vous pouvez le redire?
Bah, c'est une bonne radio, principe actif.
Principe actif. Ouais. Bonne, très bonne radio.
Elias, oui. Ravi camarade. Merci pour ce micro-trottoir ô combien intéressant.
Merci.
Pourquoi ce sujet ? Est-ce que c'était quelqu'un du groupe et tu t'es greffé ? Est-ce que c'est toi qui l'avais émis ? T'étais comment sur cette définition et ce choix ?
C'est quelqu'un du groupe qui a donné cette idée et je me suis retrouvé dans cette idée. Et je me suis dit pourquoi pas ce sujet ? Et du coup, je me suis enflammé, j'ai pris
le micro
ouais. et
tu t'es
j'ai marché
tout
sur le trottoir.
Bah ouais, voilà. Parce que mine de rien, parfois il m'arrive d'accompagner les groupes. Là, en l'occurrence, t'étais en mode solo, individuel, en centre-ville. Ouais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens étaient plutôt réceptifs ? Est-ce que t'as essuyé quelques vents, ce qui arrive ? Parce qu'on peut tomber sur des gens
ça
qui...
Ça m'est arrivé, ouais, ça m'est arrivé. J'ai précisément reçu 3 vents.
Ah, tu les as comptés.
Ouais, 3. Et sinon...
Ah bah avec la quinzaine de micro-trottoirs que tu as réalisé, c'est plutôt un beau pourcentage.
Merci, c'est gentil.
Et les réponses qui t'ont été offertes et les retours sur toi, tes sensibilités, tes idées, ou a priori, en tout cas sur le sujet, est-ce qu'ils étaient un petit peu raccord ? Est-ce qu'ils étaient surprenants, étonnants ? Comment t'as perçu les réponses qui t'ont été données ?
Il y en a certains qui n'avaient pas très très bien compris la question, d'autres qui... ont cru avoir compris la question et sont partis sur autre sujet. Mais bon, heureusement que l'autre question que je leur ai posée était plus en rapport avec le sujet que moi, je voulais entreprendre. Et ça s'est bien passé. Ils ont... Ils ont pour la plupart répondu à mes attentes. Pour certains, bon, ça arrive, hein.
Et puis c'est un bel exercice de style que d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas forcément avec un micro-enregistreur et des questions
exactement,
sur
le sujet. Exactement.
Donc plutôt positif comme...
Positif comme expérience.
Eh bah tant mieux.
Voilà.
Merci camarade, moi c'était un plaisir aussi d'être à tes côtés. Merci à toi Elias, on rappelle que tu as... Bah voilà, t'étais aujourd'hui en totale immersion chez Principe Actif et que voilà, tu as été nous pondre un micro-trottoir de qualité, qualitatif et quantitatif. Merci camarade.
Merci, bonne journée, au revoir.
Moi, c'est Inès, donc j'ai choisi comme thème la Coupe du Monde féminine de football et la place des femmes dans le sport. J'ai donc tourné un micro-trottoir au centre-ville d'Évreux et eu plusieurs réactions quant à cette thématique. Allez-vous regarder la Coupe du Monde féminine ?
Oui.
Non.
Ouais.
Oui.
Non, je pense pas.
Ouais.
Oui, je pense. Peut-être pas tous les matchs, mais certains, oui.
Non.
Et monsieur ?
Würdest du die Weltmeisterschaft von den Frauen?
Nein. Weil der Hintergrund ist ja, ich krieg kein Fußballfan.
Ouais, il est pas foot du tout, quoi. Enfin, moi, je regarderai les hommes, mais je regarde pas les femmes.
Okay. Pas du tout.
Ouais, mais pas entièrement. Et je me suis dit, les nanas, les mecs, ils ont rien à dire à côté. Et d'ailleurs, l'équipe de France les soutiennent et bien d'autres pays. Et c'est excellent. Excellent. Elles sont magnifiques. Professionnelles, magnifiques, il n'y a rien à dire.
D'après vous, pourquoi la Coupe du Monde féminine de football n'a pas le même engouement que la Coupe du Monde masculine ?
Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Parce que les filles jouent aussi bien que les garçons, à mon avis. Ils sont moins olé olé. Et je souhaite qu'ils aillent au bout de la coupe.
Déjà, je pars du principe que, pour ma part, j'aime pas le foot. Enfin, je regarde pas le foot de base, donc je vois pas pourquoi je regarderais plus les femmes que les hommes.
Pour moi, les filles jouent beaucoup mieux que les garçons.
Le même engouement ?
Ouais, c'est en gros le même goût. Tu vois comment tu vois
bah,
ça ?
Parce que par rapport à l'égalité, enfin...
C'est inégalité.
C'est inégalité.
Pourquoi c'est inégal ?
Bah c'est illégal parce que, enfin c'est inégal pardon, parce que enfin ça fait des listes que c'est comme ça et à chaque fois les filles qui font du sport, enfin par exemple comme du foot, bah elles sont, on les voit, on les regarde moins, même par rapport à la coupe du hand, et bah c'est pareil, on n'y accorde pas autant d'importance et c'est l'injustice.
Je sais, parce que le foot c'est principalement un public masculin peut-être, je sais pas.
Je trouve que c'est un peu plus attentif au niveau du jeu tout ça. Après c'est un peu plus populaire niveau masculin et voilà.
Parce qu'on en parle moins, les matchs sont moins retransmis déjà sur des chaînes un peu moins reconnues, voilà. C'est pas sur la 1, la 2, la 3, la 6.
je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est pas autant porté sur les écrans non plus. On n'en parle pas autant. On ne fait pas tout un foin comme pour les hommes. Et donc, je pense que c'est une des raisons. C'est pas autant commercialisé, autant mis en valeur, quoi, que pour les hommes. Warum ist das nicht so wichtig wie die Frauen wie für die Männer, die Weltmeisterschaft? Warum spricht man nicht drüber so oft?
Weil dafür haben wir eine Menge Sachen. Emanzipation, Historie des Fußballs.
Aber das sollte Emanzipation, das sollte genau umgekehrt sein.
Fußball hat ja immer mehr Bedeutung gewonnen.
C'est de plus en plus important, enfin, surtout en Allemagne par exemple, le foot féminin a pris de l'importance. On n'en parle pas beaucoup, mais on en parle.
Je trouve ça moins intéressant.
Et pourquoi vous trouvez ça moins intéressant?
Je sais pas.
Parce que c'est des gars.
Oui, voilà.
Alors, il faut écouter la chanson de Angèle. Laisse-moi te compter. Voilà ça. Donc, moi, je sais pas. Mais non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord? Il faut qu'on l'ait, nous merde. Pardon.
Pourquoi? La question, elle est...
Mais c'est des joueuses professionnelles. Elles jouent aussi bien que des hommes. Et
parce que c'est des femmes.
Parce que c'est des femmes et qu'on a...
Voilà, on n'est pas intéressant.
On a une paire de Nibar et puis de troncs, hein, c'est tout. Voilà.
Que pensez-vous du football féminin et plus généralement des femmes dans le monde du sport?
Oui, bah, les femmes dans le sport ont autant de place que les hommes. On voit... En judo, en foot, même rugby, basket, il n'y a aucun problème.
Ils sont au même pied d'égalité que les hommes. Hein. Donc je vois pas pourquoi on médiatise moins les femmes que les hommes.
Hein. Bah que ça devrait être encore plus diffusé et que on devrait donner autant d'importance. Parce que il n'y a rien qui change à part que c'est des femmes, quoi.
Je regarde pas. Et plus généralement, la place des femmes dans le monde du sport.
C'est pas équitable avec les hommes. Enfin, on juge plus facilement une fille qui fait du foot qu'un garçon.
Pour moi, les femmes sont égaux aux hommes. Pour moi, c'est tout est pareil. Enfin.
Mis à part qu'il y a moins d'intensité.
C'est ça. C'est ça.
Je pense que ça manque un peu de reconnaissance. Voilà, après, j'ai vu regarder des matchs, c'est très intéressant à voir.
Alors là, je vois pas de différence. Enfin, je vois pas pourquoi une femme ne ferait pas un sport moins qu'un homme ou plus qu'un homme. Je trouve qu'on ne devrait pas faire de différence dans les sports, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et que ce soit par exemple le tennis ou ça, enfin, je pense qu'on ne fait absolument aucune différence. Bon, pourquoi on en fait pour le foot, c'est vrai. Mais est-ce qu'on parle des basketteuses? On n'en parle pas non plus. Est-ce qu'on parle des...
Un petit peu, enfin, pas
moi,
beaucoup.
Ouais, moi. La coupe du monde de handball, moi je regarde aussi le hand. On parle que des hommes, on ne parle pas des femmes non plus. Moins, parce que c'est comme pour le foot, hein, on en parle moins. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça intéresse moins les sponsors sans doute. Je sais pas. Il y a moins d'argent dessous. Hein, weniger Geld darunter, weniger Sponsor.
Du solltest auf jeden Fall so weitermachen. Du kannst aber noch die umgekehrte Frage stellen, warum es zur Formel 1 zum Beispiel keine Frauen?
Ouais. C'est vrai, pour la Formule 1, par exemple, il n'y a pas de femmes. Enfin, on n'en connaît pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais aucune. Hein. Donc, il y a certains sports, peut-être, qui sont plus réservés pour les hommes que pour les femmes. D'autres qui sont carrément mixtes, comme le tennis, comme... Ouais, la moto, c'est pareil, il n'y a pas trop de femmes dans les sports moto.
Dernière question, que pensez-vous des filles qui jouent au foot?
Qu'elles sont courageuses.
Et que pensez-vous des femmes qui font du sport généralement, gros?
Qu'elles sont fortes dans leur domaine.
Ok.
Elle est à égalité, elle est même voire 100 fois plus maîtrisée, plus travaillée. Les hommes s'octroient le droit de lâcher prise. On ne sait pas avec quoi, qui, quoi, comment, d'arrêter. Les femmes, non. Elles continuent. Et elles ont des enfants. elles ont des machins. Elles sont, c'est des warriors, quoi. Voilà. Donc, vive le foot féminin. Surtout, hein. Merde, alors.
Pardon. Oh, okay. Inès, on vient d'écouter ces micro-trottoirs. Comment ça s'est passé? Est-ce que, déjà, tu as eu un taux de réussite plutôt intéressant? Les gens ont rapidement accepté de répondre à tes questions? Dans l'ensemble, ça a été?
Ouais, dans l'ensemble, ça a été. Au début, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure, on se libère et on va de plus en plus vers les gens.
Et les réponses qui t'ont été offertes, est-ce qu'elles t'ont surprise? Est-ce qu'au contraire, t'as trouvé ça original? Est-ce que c'était un petit peu l'image de ce que tu imaginais? Ou non, t'as été très surprise? Comment ça s'est passé?
J'étais surprise. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de monde que prévu qui s'intéressait à la Coupe du Monde féminine. Et au niveau des réactions... On peut apercevoir que on a des personnes qui défendent les intérêts et le sport féminin.
Donc c'est une bonne chose, un petit peu rassuré.
Ouais.
Voilà. Ce sujet, tu l'as choisi toute seule, on l'a pas précisé. C'est toi ça. Qui l'as défini parce que c'est important pour toi. Tu pratiques du sport sans entrer dans les détails, hein, mais toi-même, tu sens qu'il y a une petite différence et encore quelques inégalités, ou inversement, tu as la sensation que, bah, avec le temps, avec les jeunes que tu croises, ça change et tant mieux.
Ça évolue, mais je trouve qu'on reste quand même, au niveau des mentalités, on reste quand même coincé au niveau des filles qui pratiquent du sport, alors qu'il y a des filles quand même qui font la misère à certains garçons.
Ah bah voilà, on est tout à fait d'accord. Merci en tout cas à toi pour cet investissement et ces micro-trottoirs. On rappelle, Inès, hein, tu étais service civique en petite initiation radiophonique au sein de Principes Actifs et tu nous as pondu un beau petit micro-trottoir. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis en service civique à la maison d'arrêt d'Évreux.
Et moi, c'est Sandrine, du coup, je suis en service civique à loisirs pluriels à Pont-de-Mer.
Et du coup, en fait, on a choisi un sujet assez particulier, on a choisi de parler de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, on a amené ça plus avec un point de vue un peu personnel. Et je sais pas si t'as quelque chose, toi, à rajouter en plus dessus. Bah, du coup, on va commencer.
Donc, de tout temps, l'humanité cherche à évoluer. Que ce soit économique, social ou en technologie. Aujourd'hui, le progrès ne cesse de croître. Nous avons la possibilité d'explorer l'espace, la modification génétique et plein d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une nouvelle ère et un des facteurs clés de ce siècle est l'intelligence artificielle.
Dans un premier temps, en fait, on a voulu comprendre pourquoi on cherchait constamment à faire une espèce de course au progrès. Donc, en fait, on estime qu'il est évident que le but premier, c'est purement de faire du chiffre, concrètement, de l'argent. Quelle que soit en fait l'échelle, hein, que ce soit un pays, une entreprise ou même un individu. Donc en fait, bah, on arrive toujours à la même conclusion, c'est l'argent. Et quoi de mieux qu'une main d'œuvre en moins à rémunérer chaque mois, de plus qui se plaint pas, qui peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du coup, voici d'après nous un exemple qui peut répondre à la question précédente, donc la question qu'on avait posée. Donc dans un article qu'on a vu sur www.complémentaire.com, où il est cité qu'aux États-Unis, il y a Tim McGuire, donc un entrepreneur installé dans le New Jersey, qui a inventé une machine capable de faire des prises de sang.
Au Japon, OSPI, un engin costaud d'1m30 pour 120 kg, est capable de distribuer des médicaments et de laver les cheveux des patients. Son corps en plastique, qui ressemble à un gros seau renversé, se déplace seul sur des roulettes dans les couloirs et les chambres des établissements hospitaliers après avoir mémorisé un plan. Enfin, en Europe, le CHU de Liège a investi 2,6 millions d'euros pour acheter 2 robots chargés de préparer les médicaments. Ces automates permettent en bout de chaîne de faciliter les travaux des infirmiers, car l'objectif est là de décharger les infirmiers et les aides-soignantes des tâches ingrates ou physiquement trop pénibles. Elles pourront ainsi passer plus de temps avec leurs patients.
Donc ce qui se passe au Japon, donc en fait les robots s'occupent d'une partie de la logistique. Le personnel de soins du coup peut se concentrer plus sur la surveillance et l'accompagnement des malades. Et si ces robots débarquent en France, en fait on pourrait passer plus de temps avec les patients pour les rassurer, comprendre leur angoisse et les préparer à des orientations délicates. Donc là après c'est toujours sur le même site et c'est une citation en fait de Edwige, donc une infirmière depuis 20 ans dans le Var. Qui dit que franchement, avec tout ce qu'elle a à faire aujourd'hui, elle n'a pas le temps de discuter avec les patients et elle va direct à l'essentiel en fait. Donc, d'après nous, on peut constater dans certains domaines donc que la présence de l'homme est toujours nécessaire. Cependant, il y a des domaines comme le commerce où en fait les caissières ou les caissiers sont remplacés de plus en plus par des automates. Il y a aussi le e-commerce, les manutentionnaires qui sont remplacés par des machines. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'android humanisé qui s'appelle Sophia, mais en fait c'est, déjà ça c'est sur un article qu'on a trouvé sur Le Monde, qui est écrit par Morgan Tual.
Développé par l'entreprise Hanson Robotics, situé à Hong Kong, c'est un des robots les plus médiatisés de ces dernières années. Il écume les plateaux de télévision comme celui aux États-Unis du célèbre Jimmy Fallon en avril 2017 et s'invite dans les événements les plus prestigieux. Il était au Consumer Electronics Show, le grand salon de l'électronique qui s'est tenu à Las Vegas, au Nevada, du 9 au 12 janvier 2017. Mais ce n'est pas tout. En octobre, Sophia s'est exprimée devant les Nations Unies et a même obtenu dans la foulée la citoyenneté saoudienne, provoquant une polémique au passage. Sophia est-elle aussi avancée qu'il n'y paraît ? Certes, ce robot est capable de prononcer des discours et de répondre à des questions, mais dans une mise en scène à chaque fois très orchestrée. Ses discours sont scriptés et comme une bonne partie des interviews auxquelles elle participe. Sans filet, Sophia ne brille pas particulièrement. Comme beaucoup de chatbots, des programmes censés converser avec les humains, elle réagit par mots-clés et prononce en réponse des formules toutes faites qui tombent souvent à côté du sujet.
Donc c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur une de ses phrases les plus célèbres. Donc filmé sur une chaîne américaine, donc c'était CNBC. Donc le journaliste lui a posé la question « Est-ce que tu veux détruire les humains ?» Il a rajouté « S'il te plaît, réponds non ». Et la machine a rétorqué en fait aussitôt, elle a fait « Ok, je vais détruire les humains ». Donc en fait, elle a dit ça avant un grand éclat de rire un petit peu gêné de son interlocuteur. Donc tout à l'heure, en fait, on a invoqué l'interaction de l'humain à l'humain sur le plan industriel. Et en fait, si justement l'intelligence artificielle pouvait remplacer les travailleurs sociaux, donc comme on l'a vu en fait avec le développement de Sophia, en fait, qui au final devient un robot qui est une imitation de l'humain. Enfin, néanmoins, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est pas encore le cas, mais de notre point de vue, on pense qu'on y arrive à grands pas. Donc pour conclure, on a fait une vague liste des avantages et des inconvénients. Donc au niveau des avantages, c'est vrai qu'on pourrait parler d'une diminution des charges de travail dans le domaine médical et même dans les domaines industriels et dans tous les domaines de grande envergure en fin de compte. Donc un gain de temps, un gain d'argent et une expansion forte du coup de tous ces secteurs. Toutefois, c'est vrai qu'au niveau du chômage, forcément ça créerait une hausse de chômage. Après, il y aura toujours le facteur humain qui perdrait lui aussi de sa valeur.
Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, et si vous souhaitez avoir votre propre avis par vous-même, nous vous invitons à regarder Westworld, une série de Jonathan Nolan et Lisa Joy qui vous montrera que l'exploitation robotique et la bêtise humaine ne font pas forcément un bon ménage.
Quentin et Sandraline, merci beaucoup pour cette chronique, ce sujet auquel je ne m'attendais pas. On rappelle, vous déboulez à la radio et vous avez un espace de liberté quant à la définition des sujets que vous souhaiteriez aborder. Pas simple, Quentin, de parler de l'intelligence artificielle, mais franchement, vous en êtes tiré très bien. Toi, c'est venu comment un peu cette curiosité sur ce sujet-là et l'envie d'en parler aujourd'hui?
Je dirais plus que c'est par passion. J'ai toujours été un petit peu curieux de tout ce qui est novateur et de tout ce qui suscite pas mal de fantasmes. Les questions toutes les questions qui en découlent, en fait, savoir si c'est vrai, si c'est faux, si on se fait des idées, si. Enfin, tout ça, quoi, en fait. C'est vraiment passionnant, quoi, et ça me passionne.
Eh ben écoute, nickel. Et puis je trouve que le duo c'est très bien fait. Sandraline, tu as comme moi, je pense, appris des choses.
Ouais, tout à fait, ouais.
Mais pour le coup, je vous ai vu travailler à deux. Vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui. Ouais. Il y avait un vrai échange qui s'est créé autour de ce sujet presque improbable. On n'aurait pas.
Je connaissais même pas le sujet en plus.
Bah maintenant t'es calé. Maintenant t'en sais beaucoup plus.
C'est ça.
Alors on ne sait pas tout, mais voilà, vous l'avez dit, vous renvoyez vers aussi des séries parce que la fiction se rapproche de la réalité ou la réalité se rapproche de la fiction. Je crois qu'on pourrait dire les deux. En tout cas, moi je vous remercie parce que c'était pas simple. Je peux vous le dire, moi je suis témoin à mes auditeurs auditrices, ils ont écrit, marné, travaillé ensemble pour vous pondre ce regard sur et puis ces informations aussi livrées parce que vous avez cité de concrets exemples autour de l'intelligence artificielle. En tout cas, pour ou contre, au fait, est-ce qu'on peut être capable de dire ça?
Pour ou contre, ça dépend ce qu'on en fait.
Voilà.
C'est ça.
Je crois que c'est ça bien dépend. Résumé. Voilà. tout simplement. Merci Quentin.
De rien.
Merci Sandraline. Merci. On rappelle, ils sont service civique, ils ne connaissaient pas super bien le monde de la radio. Et ben voilà, ils nous sortent un beau pamphlet et une belle pensée autour de ce sujet qu'est l'intelligence artificielle. Merci encore à vous deux.
Merci à vous.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.